Ils ont mis leur menace à exécution. Les orthodoxes ashkénazes claquent la porte du gouvernement israélien. On fait le point sur cette énième crise politique avec vous, Julien Balloul, en direct d'Israël. Bonjour.
Oui, bonjour. Boker Tov. C'est vrai que c'est une énième crise. Ça fait un moment que les partis orthodoxes menacent de quitter la coalition gouvernementale si une nouvelle loi n'est pas votée. Alors, on explique de quoi il s'agit. Historiquement, les orthodoxes israéliens, les étudiants des yeshivot, sont exemptés de service militaire. C'est vraiment quelque chose qui date du tout début de l'État d'Israël, vraiment à l'époque de Ben Gurion. C'est resté comme ça pendant très longtemps. Ensuite, au milieu des années 2010, la Cour suprême israélienne avait estimé que la loi en vigueur n'était plus valable, qu'il fallait une nouvelle loi. Et depuis, si vous voulez, c'est plus de 10 ans que ça traîne, que à chaque fois le gouvernement doit présenter une nouvelle version, que le gouvernement tombe, et donc quand le gouvernement tombe, la Cour suprême ne peut pas se prononcer parce qu'il n'y a pas encore de gouvernement, etc., etc. Et donc ça traîne depuis des années et des années. Le gouvernement actuel, donc le gouvernement de Netanyahou, qui a été élu à la fin de l'année 2022, c'est le gouvernement, on le sait, le plus à droite de l'histoire, uniquement avec des partis de droite et des partis religieux. Et l'une des promesse centrale de Netanyahou au parti orthodoxe était de faire passer une nouvelle loi pour rendre à nouveau légale l'exemption du service militaire pour les étudiants orthodoxes. Sauf que le gouvernement israélien n'a pas commencé son mandat avec cette loi. Il a préféré commencer, on s'en souvient, début 2023 avec la réforme de la justice. Et donc, de mettre en second plan la loi sur l'exemption des services militaires. Ensuite, il y a eu la guerre. Donc, à nouveau, le sujet au second plan. Et le temps est passé, et nous sommes arrivés à la date limite, à partir de laquelle, légalement, l'armée pouvait dispenser les services militaires, les orthodoxes. Et donc, depuis le 1er juillet, depuis donc maintenant, vraiment là, il y a quelques jours, l'armée envoie des ordres de mobilisation à des milliers et des milliers de jeunes orthodoxes. Et ça, pour les partis orthodoxes, c'est insupportable et c'est inacceptable. Donc, le gouvernement, les partis orthodoxes, déjà au mois de juin, menacé de démissionner. Sauf que, on se souvient de ce qui s'est passé, il y a eu la guerre avec l'Iran, donc ça a été encore décalé. Et nous arrivons donc à l'étape maintenant. Aujourd'hui, la négociation, elle est sur quoi? En fait, le gouvernement israélien est prêt, si vous voulez, à faire une concession sur une partie des orthodoxes israéliens qui n'irait pas à l'armée, mais exige, c'est Yuli Edelstein qui mène la loi, exige qu'en échange, eh bien, ces étudiants de yeshiva ne puissent pas, si vous voulez, profiter de certains avantages. Par exemple, des avantages fiscaux, des réductions sur la taxe d'imposition, etc., etc., que tous ces avantages économiques soient réservés à ceux qui fassent l'armée. Donc, si on résume, si vous voulez, très bien, vous pouvez ne pas faire le service militaire, mais par contre, ceux qui font le service militaire auront, eux, des avantages notamment économiques. Et ce n'est pas tout, le gouvernement demande des sanctions contre ceux qui n'iraient pas au service militaire, par exemple, des interdictions de quitter le pays, etc., etc. Il faut bien comprendre, c'est une question de pure injustice. Il y a tous les Israéliens de 18 à 21 ans qui vont à l'armée, 18 à 20 ans pour les filles. Il y a les réservistes qui font des centaines de jours par an. C'est devenu insupportable. J'en ai régulièrement parlé sur cette antenne. Avec moi, je vois des collègues qui disparaissent pendant des mois. Et on voit toute une partie de la population qui ne va pas au service militaire, qui ne participe pas à ce fardeau, si vous voulez. Et donc, c'est une question de grande égalité. Yuli Edelstein, qui est un député du Likoud et l'ancien président de la Knesset, mène une ligne parfois ferme, c'est pas toujours très clair, mais en tout cas, il est soutenu plus ou moins soutenu par les organisations des réservistes. Ça dépend des fois, parfois, il coordonne son attitude. Et il devait, hier, présenter une nouvelle version de la loi qui devait être un compromis. Apparemment, le compromis n'a pas satisfait les orthodoxes ashkénazes, qui ont donc décidé de quitter le gouvernement, de claquer la porte du gouvernement. Je note au passage que il y a eu 2 informations parallèles qui sont sorties. Il y a eu 3 soldats israéliens qui sont morts dans la bande de Gaza. Et en même temps, l'annonce de la démission du gouvernement des élus orthodoxes ashkénazes. Ce parallèle est assez insupportable en voyant d'une part une partie de la population qui se sacrifie et de l'autre une partie qui quitte le gouvernement pour ne pas prendre sa part à l'effort de guerre. Donc, est-ce que ça veut dire que le gouvernement va tomber pour autant? Pas forcément, parce que nous sommes en le gouvernement et le Parlement là part en pause estivale jusqu'à après les fêtes, sauf si l'opposition arrive à mobiliser les orthodoxes pour faire passer une loi pour la dissolution de la Knesset, mais ça paraît peu probable. Donc a priori, Netanyahou devrait pouvoir respirer tout l'été et éventuellement convoquer des élections pour début 2026. Donc on n'y est pas encore, surtout que on est en Israël, on n'est pas à l'abri d'un énième retournement où ce matin les orthodoxes feraient marche arrière en obtenant satisfaction sur certains points et retournerait dans le gouvernement. Donc, la crise n'est pas terminée.
Et autre sujet avec vous ce matin, Julien, c'est une petite révolution dans le monde orthodoxe, justement, et qui se profile. La Cour suprême qui a tranché sur un vieux dossier, les femmes pourront désormais se présenter aux examens rabbiniques du rabbinat central orthodoxe.
Absolument. Donc on parle toujours du monde orthodoxe ce matin. Alors il faut être précis, la Cour suprême n'a pas ordonné au rabbinat central de nommer des femmes à des postes de rabbin, ce genre de choses, etc., etc. Non, ça, le rabbinat central, la rabbanoute orthodoxe et qui contrôle notamment le ministère des Affaires religieuses, continuera de nommer uniquement des hommes aux postes où ils veulent. Ce que demande la Cour suprême, c'était une requête qui a été déposée par une organisation sioniste religieuse, c'est de pouvoir permettre aux femmes de se présenter aux examens rabbiniques dans les mêmes conditions que les hommes, avec les mêmes épreuves et les mêmes questions, etc., etc. Pourquoi ? Parce que simplement, ils disent, les femmes veulent aussi étudier la Torah. Et les femmes veulent avoir la possibilité d'être jugées sur leurs connaissances comme les hommes, de se présenter aux mêmes examens, de pouvoir vraiment être sur un pied d'égalité. La Cour suprême, c'est un dossier qui date, je crois, de 2019, on est en 2025, ça a vraiment traîné. La Cour suprême a critiqué le gouvernement et le ministère des Affaires religieuses qui a apparemment traîné sur le dossier, a tout fait pour empêcher ça, et a dit que c'était une discrimination insupportable et qu'il faut donc permettre aux femmes de pouvoir se présenter à ces mêmes examens, dans les mêmes conditions, de répondre aux mêmes questions. Et évidemment, par contre, le ministère pourra toujours décider de nommer des hommes, mais c'est une décision importante. Après, il faudra voir comment sera mise en œuvre.